Europe 1.
Il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu. C'est autre chose. C'est pour parler, certainement. C'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, suspense, suspense. Pour l'invité, je ne vous dis rien, à part que le suspense est justement un indice. Visite de bibliothèque, ensuite nous visiterons celle d'Olivia Ruiz aujourd'hui. C'est chic, hommage au libraire avec un petit livre qui leur est consacré. Je recevrai son auteur, Maël Renoir, et puis Sébastien Bordenave éteindra la lumière avec sa chronique bande dessinée. Mais d'abord donc, c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. Labyrinthe, avec un S, c'est important, aux éditions Fleuve Noir. C'est son nouveau roman, l'histoire de cinq femmes, cinq intrigues qui s'entremêlent pour n'en former qu'une, enfin plutôt quatre, enfin bon, c'est compliqué. Bonjour Franck Tillier.
Bonjour.
Fin du suspense. Donc je dois dire que c'est pas facile de pitcher ce roman. Je pense qu'il faut prendre les histoires les unes après les autres pour s'y retrouver dans votre labyrinthe, dans vos labyrinthes. On va y venir, mais en fait, d'abord, labyrinthe, en fait, ça pourrait être quasiment le titre de chacun de vos romans, non ?
Oui, effectivement, c'est un peu j'aime ce labyrinthe, le labyrinthe, ce qu'il représente, à la fois en tant que jeu et défi, et puis toute la symbolique. Et depuis tout petit, moi, je me confronte à des labyrinthes. Donc, il y a l'aspect jeu. Et puis, c'est vrai que tous mes romans s'intéressent profondément à la psychologie humaine, hein, d'essayer de comprendre la raison d'un dysfonctionnement dans la tête d'un être humain. Et donc, évidemment, il y a cette notion de conscient et d'inconscient. Le labyrinthe et le monstre qu'on trouve au milieu du labyrinthe, qui est le Minotaure, qu'on cache peut-être tous au fond de soi, au fond de son inconscient. On a tous quelque part une petite part d'ombre là où se cachent un peu nos monstres personnels.
Et un côté Dédale, et d'ailleurs vous citez les Métamorphoses d'Ovide. Ainsi Dédale confond tous les sentiers du labyrinthe, à peine lui-même il peut en retrouver l'issue, tant est grande la tromperie de l'édifice.
Oui, c'est ce que j'ai ressenti à l'écriture de ce livre. C'est pour ça que je voulais mettre cette citation, parce que j'ai quand même écrit 21 romans. Et en écrivant Labyrinthe, j'ai eu l'impression vraiment, au milieu de l'écriture, au trois quarts, au premier quart, de m'y perdre.
De vous perdre vous-même dans votre construction. Ouais,
vraiment,
quoi.
Vraiment, parce qu'il y a évidemment l'histoire que je raconte. Et puis après, il y a la manière dont j'ai construit ce roman, qui utilise pas mal de techniques et de codes que j'ai appris au fil des années. Et j'ai voulu une certaine forme de complexité, et finalement que le labyrinthe, que le titre, se reporte aussi à la manière dont était construit ce roman.
On va y venir à la structure et tout ça, mais juste, je tourne autour exprès, hein, vous avez compris que j'arrive pas parler de ce livre sans livrer la fin et tout, donc j'ose pas y aller, mais quand même, à chaque fois, pas à chaque fois, mais souvent, à la fin de vos romans, il y a un petit truc de l'enfant que vous êtes, le côté astrapi. Oui. Et là, c'est un labyrinthe à la fin, la dernière fois. C'était le dernier, je ne sais plus, où il fallait gratter le dernier mot pour découvrir la réalité, comme un jeu à gratter, quoi. Et avec vous, c'est pour découvrir à chaque fois un meurtre ou un truc horrible, mais c'est ce côté jeu qui vous amuse aussi.
Oui, j'aime bien qu'il y ait une prolongation de l'histoire, c'est-à-dire que quand on ouvre un roman, on commence l'histoire, on termine le livre, et quand on referme le livre, j'aime bien que le livre, que l'histoire imprègne encore le lecteur et que le jeu continue quelque part.
Et donc, de rappeler que c'est qu'un jeu, d'une certaine manière, à la toute fin.
Oui, oui, c'est rappeler que c'est qu'un jeu, que c'est qu'un roman, c'est qu'une histoire qui est complètement inventée, parce que ces histoires-là, même si elles parlent de notre société, de ses problèmes, ça reste quand même une fiction. Et je n'oublie jamais que le but premier d'un roman, c'est avant tout quand même de distraire. Hein, dans un roman, il y a romanesque et on achète des romans parce qu'on a envie de voyager et de s'évader. Donc ça, il faut le garder en tête. Donc c'est vrai qu'à la fin de mes livres, il y a toujours un défi. Alors là, c'est forcément lié au labyrinthe. Il y a un labyrinthe à résoudre qui va mener en fait vers un chapitre qu'on va pouvoir récupérer sur Internet, qui explique justement la manière dont j'ai écrit ce livre, parce que j'ai éprouvé ce besoin après avoir écrit ce livre de continuer d'expliquer toutes les difficultés que j'avais eues à faire naître cette histoire. Donc c'est un peu aller dans l'envers du décor de l'auteur.
Mais il n'est pas facile, hein. Je dis astrapi, attention, c'est complexe le petit labyrinthe de fin à faire soi-même. Oui. C'est vous qui l'avez dessiné ?
Non, c'est le graphiste qui a fait d'ailleurs la couverture, qui est absolument magnifique, parce qu'elle représente aussi un labyrinthe qu'on peut résoudre. On a poussé le concept jusque la couverture. Et oui, alors je rencontre les lecteurs, ils ont quelques difficultés à résoudre. Alors, soit on part de la fin. En fait, pour résoudre les labyrinthes, on peut partir de la fin, souvent, et on remonte, comme ça, il y a souvent moins de possibilités. Ou alors, on suit toujours le mur de gauche. Alors, on va emprunter un chemin très très long, parfois, mais on trouve toujours la sortie.
Ou alors, on reviendra au début à la fin, éventuellement.
Et oui, oui, ça peut dépend. Boucler aussi. Il y a aussi cette symbolique-là, parce qu'effectivement, il y a aussi ça dans le roman.
Alors, ça commence dans un hôpital. Camille Nijinsky, comme le danseur russe, en charge de l'enquête, s'entretient avec le médecin qui s'occupe d'une patiente retrouvée à côté d'un cadavre. Un cadavre qui a été salement amoché. Or, elle a perdu la mémoire. Mais, le psychiatre explique à Camille qu'avant de tout oublier, cette patiente a eu le temps de lui confier son histoire. Et il raconte. Vous auriez pas voulu être psychiatre ou neurologue dans la vie, en fait, Franck Tillier? Le motif de l'amnésie, c'est un classique, mais vous avez fait les rêves aussi, et souvent il y a une dimension assez psychiatrique dans vos romans.
Oui, bah c'est des métiers qui me fascinent, parce qu'ils s'intéressent à ce qui se passe dans la tête des gens, en fait. Et quand on est auteur de polar, on s'intéresse évidemment à ce qui ne fonctionne pas dans notre société. Alors, des auteurs de polar vont plutôt parler de politique, vont plutôt parler de chômage, voilà, de ce qui se passe dans le monde dans lequel on vit. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce dysfonctionnement général, c'est un peu ce qui se passe dans la tête des gens, ce qui va créer à un moment donné un équilibre, un déséquilibre dans une personne qui, a priori, est normalement constituée. Ouais. Le passage à l'acte, pourquoi, enfin, l'interrogation sur les tueurs en série, est-ce qu'ils ont un passé bouleversé pour se mettre à commettre des crimes. Donc moi, j'aime bien aller dans la tête des personnages. Et parler de sujets, alors soit médicaux, soit scientifiques, mais qui sont au fond de nous. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets très récurrents. Je m'intéresse beaucoup au fonctionnement du cerveau, donc l'amnésie, la psychiatrie.
Mais vous vous y intéressez, vous allez voir sur Wikipédia, ou alors vous avez beaucoup de documentation et vous avez même des neuroscientifiques éventuellement qui vous relisent ou qui vous guident.
Oui, il y a les deux. C'est-à-dire il y a beaucoup de documentation écrite à la base pour vraiment défricher un sujet, pour comprendre comment ça fonctionne, comment la mémoire fonctionne, quels sont les différents types de mémoire. Ça donne vraiment les bases et le socle de documentation. Et après, évidemment, comme on crée des personnages et qu'on crée une histoire, on ne trouve pas tout dans les livres. Nous, on parle de cas particuliers dans les romans. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai besoin d'aller à la rencontre des spécialistes pour dire, ben voilà, quelqu'un qui, dans la vraie vie, se réveille en ayant oublié 12 ans de sa vie, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment il arrive à survivre à ça? Et quelles sont ses blessures?
Est-ce qu'il y a des bribes qui reviennent? Est-ce qu'on peut lui faire retrouver la mémoire? Et des choses comme ça.
Oui. Et j'essaye vraiment de coller à la réalité. C'est ce qui intéresse le lecteur. C'est cet aspect très réaliste des romans. C'est-à-dire, en fait, quelque part, ce sont des histoires extraordinaires. Je pousse assez loin. On a toujours des grands méchants qui sont un peu... il y a toujours des scènes de crime très complexes qu'on ne trouve pas forcément...
Mais attendez, moi j'ai lu tout le bouquin, vous êtes en train de me dire que ça pourrait, ce serait vraisemblable que ça pourrait arriver?
Ah oui. Alors là c'est un type de... On peut en parler un petit peu parce que ça ne va pas dévoiler le livre, ce qu'on appelle la confabulation pathologique. C'est-à-dire c'est quelque part la penser que des événements, avoir des souvenirs d'événements qui ne se sont jamais produits, c'est-à-dire être persuadé...
C'est pas la paramnésie de certitude?
Ah oui, pardon, oui, alors... je confonds entre mes différents romans parce que j'ai abordé ce sujet-là
connais mes dossiers quand même.
Oui, mais vous avez remarqué. Mieux que l'auteur lui-même, c'est quand même extraordinaire.
C'est pas moi qui l'ai trouvé, hein. Vous en parlez au début, à la fin,
la confabulation de certitude. Oui, je crois que je parle de la confabulation pathologique. En fait, il y a deux choses différentes. Et donc oui, la paramnésie de certitude, c'est être persuadé que des souvenirs qu'on a en tête se sont réellement produits, ce qui est logique, puisqu'on les a en souvenir, sauf qu'en fait, ces souvenirs sont soit très, très loin de la réalité, soit sont complètement inventés. Et donc, de se dire, finalement, est-ce que l'image du passé qu'on a, c'est réellement le passé qu'on a vécu? Donc ça, c'est très, très fascinant. Et ça existe réellement d'un point de vue scientifique, médical. Et moi, j'aime bien me baser justement sur des cas particuliers comme ça pour développer mes personnages et mes histoires.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, le retour avec Franck Tillier qui publie chez Fleuve Noir, bien sûr, son nouveau roman sorti il y a quelques semaines et déjà un carton, comme toujours, Labyrinthe au pluriel, avec quatre histoires pour le prix d'une, Un psychiatre s'occupe d'une patiente retrouvée à côté d'un cadavre salement amoché. Elle est amnésique, mais elle a eu le temps de raconter au médecin son histoire. Histoire qu'il raconte à son tour à la policière Camille Nijinsky en charge de l'enquête. Il la prévient tout de suite. Il y a 5 protagonistes, 5 femmes dans son histoire. D'ailleurs, il raconte, c'est un conteur hein, quand même, hein, le psychiatre. Hein. La première, une journaliste de Rouen, Lisine. Un jour, elle reçoit un courrier qui lui rappelle qu'elle doit renouveler sa boîte postale. Or, elle n'a jamais souscrit une telle chose. Elle va voir et elle trouve dedans une enveloppe avec un film, une vieille bobine de 8 mm. Elle regarde et c'est un snuff movie, des atrocités, une exécution réelle avec un clin d'œil à Nicolas Cage d'ailleurs. Il y a Vera Clairton. Alors elle se planque au milieu de nulle part dans les Vosges parce qu'elle est hyper électrosensible, sensible aux ondes, au téléphone et tout. Là, il y a aussi un clin d'œil. La troisième, c'est Sophie, une romancière. Elle a été diagnostiquée par Vera, la psy, justement, schizophrène, paranoïde. La quatrième, c'est Julie. On la découvre, alors elle, ça, on la découvre au début du roman dans un coffre, ligotée. Et quand le coffre s'ouvre, c'est pour que quelqu'un lui injecte un produit qui l'endort dans la seconde. Il en manque une de femme, parce qu'on avait dit 5, mais il faudra lire pour la rencontrer. Il y a un homme aussi. Caleb Trachman, je ne sais pas si on peut en parler.
Oui, tout à fait, on peut en
parler. Et alors lui, on le connaît, puisqu'il était dans un de vos deux mêmes manuscrits inachevés, et il était deux fois. Et ça, ce n'est pas la première fois. Bon, évidemment, il y a Charcot, mais vous aimez bien comme ça mettre des pierres dans chacune de vos romans pour construire l'œuvre, en fait. Tout se relie, d'une certaine manière, même si on peut lire, bien sûr, indépendamment les livres les uns des autres, puisqu'ils ont pas, ils sont pas liés. Mais ils ont ce lien-là.
Oui, oui, c'est vrai que ça forme plutôt, ces trois livres-là forment ce que j'appelle plutôt un triptyque qu'une trilogie, parce que là, dans la trilogie, il y a la notion d'ordre, c'est-à-dire qu'il faut lire le premier, le deuxième et le troisième, alors que là, on peut vraiment soit en lire un, lire Labyrinthe par exemple, et ne pas avoir du tout l'impression d'un manque quand on n'a lu aucun des autres, ou avoir lu les autres et se dire, mais il y a quelque chose qui se dégage en plus dans la lecture, parce que justement, on découvre, par exemple, ce personnage de Caleb Trachman, qui est l'écrivain dans le roman, et qui est un des personnages centraux dans Labyrinthe, qui n'apparaît qu'en nombre chinoise dans les autres. Donc en fait, il y a des fils comme ça qui se tissent. Et moi, j'aime bien faire ce cadeau et ce plaisir à mes lecteurs de relier un peu des éléments et qui créent une espèce d'univers où ils ont l'impression de retrouver l'auteur qu'ils connaissent. Et ça, c'est vraiment des clins d'œil pour eux. Et évidemment, je pense toujours aux nouveaux lecteurs pour ne pas les perdre et qui peuvent lire n'importe quel livre presque indépendamment des autres.
Et là, il y a souvent aussi dans vos romans, et particulièrement dans celui-là, ce qu'on appelle des Easter eggs, c'est-à-dire, c'est quand on parle des séries américaines, des œufs de Pâques, c'est-à-dire des petites choses cachées dans les intrigues qu'on trouve ou qu'on ne trouve pas, peu importe, mais qui nous rappellent soit un souvenir et qui parfois même peuvent servir l'intrigue. Et dans vos noms, vous faites plaisir aussi. J'ai dit, il y a Caleb Trachman. Caleb, je crois que c'est le nom de Superman. Oui. Le prénom de Superman. Il y a aussi Vera Clairton. Alors, ça peut être soit du Agatha Christie, soit ça m'a fait penser aussi à Dolores Claiborne de Stephen King, mais ce sera soit l'un ou soit l'autre. Et en l'occurrence, alors pas tous, hein, mais ça sert aussi l'intrigue, voire sa résolution. Comment vous faites pour les prénoms en général et quand vous cachez comme ça des indices en particulier?
Je parlais tout à l'heure, j'aime beaucoup jouer avec les mots, c'est-à-dire il y a l'histoire que je raconte évidemment, mais après il y a la manière de la raconter. Et je suis assez fasciné par exemple par le groupement de Loulipo qui va jouer avec la structure des mots, avec les palindromes par exemple, les mots qu'on peut lire dans les deux sens. Et donc j'aime intégrer ce genre d'exercice, on va dire, dans mes romans. Et là, c'est vrai que pour celui-là, le nom des personnages était important. Alors soit parce qu'il fait référence effectivement à des personnages auxquels les gens peuvent se raccrocher, les lecteurs, et ils ne comprendront qu'à la fin la raison de ce lien. C'est ça qui est intéressant.
Ou pas d'ailleurs, parfois ça, c'est juste.
C'est un peu les fausses pistes aussi. Oui, aussi. Alors il y a les clins d'œil nostalgiques, il y a aussi les fausses pistes, parce qu'on aime aussi en tant qu'auteur de suspense, semer des petits cailloux blancs. Alors parfois il y a ceux qu'il faut suivre, effectivement, puis après il y a ceux qui ne servent à rien.
Je suis terrifié à l'idée qu'on donne trop d'indices.
Oui, mais par exemple, dans le manuscrit inachevé, alors justement il y avait des palindromes, parce que Caleb Trachman était fasciné par les palindromes. Et donc j'ai souligné tous les palindromes qu'on trouve dans le livre. Et les gens disaient, mais pourquoi ils soulignent les palindromes? Donc en fait, il y a une espèce de, encore une fois, un jeu où les lecteurs, à la sortie du livre, essayent de comprendre justement la raison de la nomination de ces personnages ou des mots avec lesquels j'aime jouer.
Alors évidemment, toutes ces intrigues se rejoignent à un moment donné, évidemment, mais vous les construisez les unes après les autres et ensuite vous les imbriquez en refaisant les joints et tout pour que ça colle, ou est-ce que c'est au fil de l'écriture, l'une mène à l'autre?
Alors moi, je fais partie des auteurs qui essayent de préparer au maximum leur histoire avant de commencer à l'écrire. Donc je passe vraiment la moitié de mon temps à établir une structure, une espèce de plan, en tout cas de trame, où j'ai les points essentiels, importants de l'histoire, les nœuds dramatiques, ce qui va se passer autour des personnages, comment l'enquête va avancer, avec une vague idée de la fin, c'est-à-dire en fait, je connais le but du livre, je sais pourquoi le grand méchant est là et pourquoi il agit de cette manière-là, mais je ne sais pas précisément comment ça va se terminer, à quel endroit, de quelle manière il va se faire interpeller ou en tout cas se livrer. Donc voilà, je démarre un peu avec cette structure-là. Et alors après, évidemment, il y a la magie de l'écriture, c'est-à-dire qu'on essaye de suivre un plan et puis pendant l'écriture, ça diverge. C'est un peu comme un navigateur qui fait le vent des globes et à un moment donné, il essaye de suivre sa trajectoire et puis il y a les vents qui vont le pousser sans qu'il puisse rien faire. Ben, en fait, il faut se laisser aller, suivre ces vents. Et une fois que les vents ont cessé de souffler, de revenir un peu dans la trajectoire. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est souvent d'ailleurs pendant l'écriture que surgissent les meilleures idées, c'est-à-dire des idées que je n'avais pas du tout anticipées. Et je me dis à ce moment-là, mais c'est génial, il faut que j'écrive ça. Ça m'écarte en fait de ma voix, mais je sais que j'arriverai à y revenir par d'autres biais un peu plus tard. Et heureusement qu'il y a ça évite que le roman soit juste de la rédaction d'un plan préétabli. C'est toute la magie qui se dégage au moment de l'écriture.
On l'a dit tout à l'heure, ça vous fascine les histoires de cerveau et de neurosciences, et ça pose une question aussi très intéressante en matière de crime, c'est celle de la responsabilité. On sait bien qu'il y a des criminels qui échappent à la prison parce qu'on considère qu'ils ont un pète au casque, qu'ils n'étaient pas responsables de leurs actes au moment où ils l'ont fait. Mais pour un romancier de polar, est-ce que c'est intéressant ou au contraire, ça peut être un problème de ne pas identifier un criminel comme un monstre?
Oui, c'est une question centrale. C'est le fameux article, je ne sais plus si c'est le 221 ou 241 du code pénal sur l'irresponsabilité.
Je croyais que vous alliez me parler du code du polar.
Ah, oui, bah ça pourrait aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cet article qui il est toujours souvent au cœur de mes histoires. J'en repars d'ailleurs dans le roman que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est-à-dire la notion de responsabilité dans les actes. Est-ce que la maladie mentale peut autoriser quelque part? Enfin, voilà, il y a ces aspects-là. Et dans Il était deux fois, dans Labyrinthe, j'ai ce rapport aussi à l'art dans l'histoire. Jusqu'où peut aller l'artiste? Quel droit il peut se donner au nom de l'art? Comment il peut se responsabiliser, mais aussi se déresponsabiliser et de jouer avec les frontières entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit? Donc, quelque part, on retrouve cette notion d'article qui est encore là, mais vraiment qui est au cœur, finalement, qui est un peu la colonne vertébrale de nombre de mes romans.
Je vous parlais du code du polar. Est-ce que je parle du code von Dyke qui a été établi au début du XXe avec des écrivains de polar qui ont mis en place tout un tas de règles. On peut utiliser du poison, mais pas plus de 3 fois. Enfin, je ne me rappelle plus exactement. On ne peut pas utiliser un jumeau.
Ah oui, mais j'allais en parler
pour l'intrigue, pour la conclusion de l'intrigue.
Pourtant, je suis un peu à côté du code parce que je les ai beaucoup utilisés.
Mais justement, est-ce que vous l'avez, le code von Dyke? Est-ce que vous le regardez ou est-ce que vous dites non, c'est bon?
Je m'y suis déjà intéressé parce que c'est vrai que
Je parle des jumeaux parce qu'on ne dira pas lequel, mais il y a un de vos romans où vous utilisez la technique des jumeaux.
Et oui, la technique des jumeaux, mais même plusieurs. C'est-à-dire que c'est encore une fois des éléments qu'on retrouve dans nombre de polars qui sont censés être interdits, mais qu'à partir du moment où on les assume, déjà d'une part, et puis qu'on les utilise, mais de manière judicieuse, en renouvelant un peu. Moi, on peut tout s'autoriser, comme on peut s'autoriser tous les sujets aussi dans le polar. On demande souvent est-ce qu'il y a des sujets que vous interdisez. Non, on peut tout faire. Après, c'est la manière dont on va le faire, la manière dont on va le raconter. Donc, moi, je ne suis aucune règle. C'est vraiment l'idée qui prédomine. Et si à un moment donné, j'ai besoin d'un jumeau parce que je trouve que c'est tellement merveilleux et que ça va tellement surprendre le lecteur
Mais c'est encore plus difficile d'une certaine manière, puisqu'il faut le faire autrement que la manière dont il a été utilisé.
Oui, et puis si c'est mal utilisé, ça va créer une vraie déception, parce qu'on va dire, ah, mais il nous fait le coup des jumeaux, tout sauf ça. Et donc, il faut vraiment être judicieux quand on les utilise.
14h-15h sur Europe 1.
La Voix est livre.
La Voix est livre, troisième chapitre, avec Franck Tillier et son Labyrinthe. C'est Labyrinthe chez Fleuve Noir qu'il vient de publier. Et vous publiez aussi Le plaisir de la peur dans la collection Secrets d'écriture. C'est une nouvelle collection qui s'intéresse aux coulisses. c'est-à-dire comment ça marche le suspense, comment ça marche telle manière d'écrire. Il y a eu Jean-Philippe Toussaint, Michel Bussy. Vous, maintenant, c'est un peu le magicien qui dévoile ses tours, là.
Oui, oui. Alors, on dévoile les tours qu'on peut dévoiler, on va dire les tours les plus basiques. Alors, c'est intéressant parce que moi, j'ai toujours eu cette envie de partager, en fait, depuis le début de l'écriture, d'expliquer aux gens comment on peut en venir à l'écriture, ce qui m'a mené à l'écriture. C'est pour ça que je vais beaucoup sur les salons, dans les librairies, pour discuter avec les lecteurs. Et là, ça fait 20 ans que j'écris. J'ai rassemblé pas mal d'anecdotes tout au long de mon écriture. J'ai appris beaucoup de choses en écrivant, en passant mes journées à essayer d'imaginer comment on fait faire peur aux gens. Hein, c'est quand même mon métier. Depuis 20 ans, c'est, je passe 8 heures par jour à me dire mais comment je vais pouvoir effrayer les gens. Donc, c'était le bon moment. Et donc, le Robert a créé cette formidable collection de secrets d'écrivains. Donc, moi, c'est vrai que c'est dans ce genre-là, le genre de la peur, du suspense. Mais ce qui est formidable avec cette collection, c'est justement, il y a des auteurs qui sont plus dans le feel-good, des auteurs qui sont plus dans la littérature générale, dans la BD, enfin, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un peu de livrer l'arrière du décor. Parce que ça fascine les gens, les histoires fascinent les gens, mais la manière dont elles sont écrites les fascine. Et moi, il y avait beaucoup de questions qui revenaient quand je rencontrais les gens. Et je me suis dit, bon, arrêtez de me poser la question, je vais l'écrire une bonne fois pour toutes. Vous l'aurez dans le livre et comme ça, vous aurez accès un peu à ces fameux secrets voilà, qui vont vous permettre d'essayer de vous lancer dans l'écriture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire, surtout avec la période qu'on a vécue de 2 ans, un peu d'enfermement, de confinement. Donc les gens ont des histoires à raconter, mais ils ne savent pas forcément comment le faire. Et donc, je livre un peu la manière de le faire dans le plaisir de la peur.
Justement, vous dites que vous passez votre vie à essayer de faire peur aux gens. Beaucoup d'écrivains de polar, Stephen King et d'autres, disent ça aussi dans un sourire. Bien sûr, je passe ma vie à essayer de trouver des trucs pour faire peur aux gens. Je dois être un peu fou moi-même. Mais alors, justement, je vous pose la question vraiment. On n'est que tous les deux, Franck Tillier. Répondez-moi, est-ce que vous êtes atteint psychologiquement parfois, à force quoi? Quand vous vous rappelez l'époque où vous n'écriviez pas et maintenant, est-ce que vous avez déjà vu un psychologue en disant
Alors,
moi, je pense que non.
Non, hein, parce que non, heureusement, parce que
quelqu'un
peut-être
très très sympathique, mais ouais, je me dis peut-être.
Non, j'évite de voir des psychologues parce que je pense que ça casserait peut-être quelque chose. Il faut parfois rester avec ses secrets. Il y a une magie qui s'opère à chaque fois que j'imagine des histoires. Et je ne voudrais pas la rompre. Je dois avouer que la première fois où j'ai écrit mon premier roman, qui était très, très noir et vraiment effrayant, ma femme m'a regardé d'une drôle de façon, parce qu'elle ne connaissait pas cette partie-là de Franck Tillier.
Je croyais que vous alliez m'avouer un meurtre en direct. Là,
non, bah ça, je garde
ça
un peu pour moi.
Ça aurait été énorme pour le buzz, hein, je vais dire.
Mais non, c'est... alors c'est vrai que je m'interroge un peu sur ça, évidemment. Quand on écrit des polars, on a ce rapport privilégié à la partie la plus sombre de la société. On passe nos journées à aller un peu fouiller dans ce qui n'est pas forcément très regardable. Mais en même temps, j'ai quand même un peu cet esprit justement de journalistique, d'essayer d'avoir un détachement entre mon métier, qui est celui justement d'aller chercher ces histoires et de les retransmettre à des lecteurs parce que ça les intéresse, parce que ça parle du monde dans lequel on vit et qu'il n'y a pas que la phase la plus glorieuse, il y a aussi tout ce qui se cache derrière. Mais évidemment, j'entretiens cette distance, mais parfois, dans l'écriture, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? De fouiller un peu dans cette noirceur humaine. Et donc, oui, il y a des phases comme ça d'interrogation sur moi-même, sur la raison de ce métier, sur cette violence aussi qu'on véhicule dans le livre. Parce que... moi, des gens sont venus me voir, parfois sur les salons, me disent, mais vous vous rendez compte, en fait, vos romans, si ça tombe entre de mauvaises mains. Mais quelque part, c'est le métier, c'est l'un des devoirs de l'artiste, de retranscrire le monde dans lequel il vit, hein, à travers des tableaux, à travers de la musique, à travers des films. La violence fait partie de notre monde, la mort, le meurtre. Et donc, on la retrouve forcément dans les livres qui retranscrivent un peu cette réalité.
Vous connaissez l'histoire de Rage de Stephen King, qu'il a fini par retirer des librairies. Le livre ne peut plus être vendu, sauf d'occasion. C'est l'histoire d'un gamin qui prend en otage sa classe et qui tue la prof et le surveillant et je ne sais plus quoi. Ils sont cernés par la police. Et le bouquin, c'est ce gamin qui discute avec les camarades de classe qui veulent comprendre et tout. Et en fait, on a retrouvé ce livre dans la chambre de certains ados qui avaient commis des tueries dans des lycées. Ouais. Et Stephen King, première fois, deuxième fois, a dit non, mais c'est pas moi. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. C'est comme ça et c'est tout. Ils étaient fous. Et la troisième ou quatrième fois, il a décidé de ouais, retirer ouais. Des librairies.
Oui, bah c'est une vraie interrogation, effectivement, parce que surtout que c'est un sujet quand même, les meurtres de masse aux États-Unis, dans les lycées, c'est quand même quelque chose de très sensible. Moi, je reste persuadé quand même que ce n'est pas un livre qui va déclencher ça. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une mécanique beaucoup plus profonde liée à l'enfance, liée à l'éducation, liée justement au monde dans lequel on vit, qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un va passer à l'acte. Donc, c'est ça aussi qui me permet de me dire, bon, c'est pas forcément l'un de mes livres. C'est pas un jour quelqu'un qui va lire mon livre et va dire bah, tiens, je vais devenir tueur comme dans le roman et me mettre à tuer des gens. Évidemment, j'ai eu cette interrogation-là. Et c'est nécessaire de l'avoir, effectivement, parce que oui, ça peut tomber entre de mauvaises mains. Ça peut donner des petites clés. Hein. Vous savez, il y avait eu, au moment des experts, la série Les Experts,
et oui.
Les policiers commençaient à retrouver des voitures cambriolées, mais aussi brûlées. C'est-à-dire
pour éviter les traces ADN.
Voilà. Mmh. Donc, ça donne des petites astuces. Mais pour quelque chose de beaucoup plus lourd, qui est un passage à l'acte, qui va impliquer un meurtre, ou en tout cas des actes extrêmement violents, je ne pense pas qu'une peinture, qu'une musique, qu'un livre puisse provoquer ce basculement.
Et vous avez pensé quoi du camarade Bernard Minier, dont le roman Glacé s'est retrouvé dans les mains de Dupont de Ligonnès, et on voit sur la vidéo, en fait, il est avec le roman de Bernard Minier,
ouais,
où on l'a retrouvé chez lui, enfin, je ne sais plus.
C'est absolument incroyable, on en avait discuté avec Bernard Minier, parce que je lui dis, mais ça te fait une pub, mais je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise pub. Il n'est pas à l'aise avec ça, parce qu'effectivement, c'est la dernière image de Ligonnès vivant. Et c'est vrai qu'on le voit avec ce livre-là, pourquoi ? Enfin, ça génère aussi des interrogations. Est-ce qu'il était simple lecteur ou est-ce qu'il s'est inspiré un peu le mystère demeure autour de cette affaire.
Et je sais que la police a réquisitionné 10 exemplaires à la maison d'édition.
Ah oui, c'est vrai, ça, je
savais
pas. Et
qu'ils ont flippé, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ?
C'est incroyable, incroyable.
Europe 1, 14h, 15h.
La Voix est libre.
La Voix est libre, toujours avec Franck Tillier pour son nouveau roman Labyrinthe, et nous partons visiter une bibliothèque, celle d'Olivia Ruiz. Aujourd'hui, elle vient de publier Écoute la pluie tomber. Chez La Thèse, c'était l'occasion de voir de quel livre elle se chauffe. Allons-y. Bonjour Olivia Ruiz.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous.
Mais avec plaisir.
Et je ne suis pas déçu d'être venu parce que c'est un drôle de chouette appart.
Non, merci.
C'est dans une toute petite cour de 10 mètres carrés. Mmh. Puis on entre dans une grande pièce et voilà l'appart, en fait.
Oui,
il y a un petit rez-de-chaussée. Puis il y a une coursive avec une mezzanine, une coursive avec des vitres,
oui,
pour laisser passer la lumière, j'imagine.
Oui, et puis en cadeau pour les personnes installées dans les canapés aussi. Je l'ai appelée la coursive jupe des filles, juste pour la petite blague, même si la seule à s'être bêtement fait piéger, c'est moi.
Et alors, quand on entre, et ben justement, sur la coursive, en haut, il y a un mur de livres, une grande bibliothèque.
Sur mesure.
Toute bien rangée, parce que dans l'escalier, avant d'arriver, vous m'avez dit, c'est le boxon.
Alors, qu'en fait, il y a des petits tas de trucs partout, pas encore rangés, parce que oui, j'étais très heureuse de confiner à Narbonne-Plage et d'avoir tous les livres importants pour moi à portée de main, puisqu'ils sont restés chez mes parents, comme les petites filles. Et puis, quand je suis revenue, mon appartement était une piscine. Voilà pourquoi je suis encore en train de réaménager doucement tout ça.
Mais il y a eu des victimes de livres ?
Heureusement, ni dans les vinyles, ni dans les livres qui sont juste suffisamment surélevés pour avoir été épargnés. Donc ça va. Mais j'ai peu de livres rares. J'ai peu de livres introuvables. Je crois qu'il y en a un ou deux là qui sont plus difficiles à trouver que d'autres. Mais pas tant que ça.
Mais ça veut dire qu'il y a des livres qui vous sont très chers à Narbonne ?
À Marseillette, d'accord, un tout petit village entre Narbonne et Carcassonne.
Mais ils ne sont pas tous là, quoi, c'est ça ce que je veux dire.
Non, non, non. Moi, quand je suis arrivée à Paris, je suis partie de zéro. Je n'ai rien ramené de ma vie d'avant.
Ouais. Donc il y a des doubles, en fait, ici, quoi.
Certains, oui, bien sûr. Je pense à L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Je crois que dans tous les appartements où je vais, même occasionnellement, même qui ne m'appartiennent pas, j'en ai laissé un exemplaire, ouais.
Pourquoi ?
Parce que c'est l'évasion absolue.
C'est-à-dire que vous l'avez lu plusieurs fois ?
Ah oui, alors je ne le relis pas en entier parce que c'est un petit pavé, mais j'en relis des passages très régulièrement. Pour moi, c'est comme un film de Wes Anderson. C'est une immersion quand ça ne va pas et que j'ai besoin de couper de avec le reste du monde, avec moi-même, avec mes propres angoisses, avec ma vie, de devenir, j'allais dire, un liquide prêt à être imbibé par l'éponge qui est le livre. Ce livre-là est parfait pour moi.
Et vous vous rappelez votre première rencontre avec ce livre ?
Je crois que c'est un cadeau de mon papa.
À quel âge ?
Je crois au moment de la sortie, probablement. Donc, je ne sais pas, il doit avoir 20 ans.
Mmh. Au moins.
Je pense. J'ai dû l'acheter 50 fois ou 100 fois.
Et la sensation, la première fois, c'était quoi ? C'était tout de suite le coup de foudre ou il a fallu du temps ?
Je crois que c'est une des premières fois où je fais quelque chose de bizarre avec un livre. C'est-à-dire que je suis à la moitié, et alors que c'est un pavé, dans une inquiétude que ça s'arrête, telle que je me castre et je m'empêche de lire chaque soir plus de 5 pages dans une douleur sans nom, mais en me disant que cette douleur-là sera toujours moindre comparativement à celle d'avoir terminé ce livre. Et les suites qui existent, en plus, n'étaient pas du tout à la hauteur de ce voyage-là, à mon goût, c'est très personnel. Du coup, j'ai pas regretté cette mini souffrance quotidienne, parce qu'elle m'a permis de le faire durer très longtemps et que ça a été une tragédie de le quitter.
Mais heureusement, il y en a d'autres, des livres.
Oui.
Là, j'en vois, on est toujours au rez-de-chaussée. Il y a une petite étagère avec certains livres qui n'ont pas rejoint le sanctuaire là-haut sur la coursive.
Oui.
Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ceux-là ?
Je sais pas, c'est peut-être ceux auxquels je reviens plus régulièrement. Par exemple, là, il y a Daniel Pennac, Chagrin d'école.
Magnifique.
On m'a beaucoup écrit, forcément, vu que les gens me connaissent plus par la musique, pour me dire, tiens, je ne lisais plus. Et du coup, j'ai lu ton livre parce que je t'aime bien, toi. Et ça me donne envie de me remettre à lire. Et je repensais beaucoup à ce livre, du coup, à ce moment-là, comme une réconciliation possible. Chagrin d'école de Daniel Pennac, c'est... Ça interroge, entre autres, sur le rapport à la lecture, par le prisme, en partie, je crois, de sa propre expérience, sur le complexe, sur la façon dont on ne s'autorise pas, sur la façon dont l'objet peut être trop impressionnant. Cette toute petite chose, pourtant.
Ben oui, parce que Daniel Pennac, c'était un cancre, en fait, et qui est devenu prof de français, ensuite, ou prof, tout court, mais instit, mais il a beaucoup souffert, en fait.
Mais bien sûr.
Il se prenait pour un imposteur et tout, jusqu'à ce qu'il rencontre un prof
qui lui a dit
d'écrire.
Oui.
Et parce que ça, il y arrivait très bien.
Voilà. Et s'adapter à nos enfants, toujours pareil. C'est ça aussi la petite leçon entre les lignes. C'est comment on et qui rejoint un autre livre qui est culte pour moi et qui est sûrement là ou pas. C'est La mère suffisamment bonne de Daniel Winnicott.
Ah. Il est là.
C'est, je crois, le premier pédopsie. Nommé en tout cas comme tel, c'est le livre que toutes les mamans devraient avoir, La mère suffisamment bonne. C'est décomplexant, ça permet de ne pas tomber dans tous les travers que l'instinct maternel, quand il se réveille, nous fait plonger.
Et pourquoi vous le reliez à Pennac ?
Parce que pour moi, c'est des outils, au-delà d'être de belles choses, au-delà de l'esthétique, de l'écriture. Voilà, ça, c'est vraiment des outils pour être plus fort, pour être décomplexé en tant que maman ou en tant que lecteur.
Et j'ai le Pennac dans les mains, là, et sur la quatrième de couverture, il y a une reproduction du carnet de notes avec les commentaires « Dessine partout, sauf en classe », ça, c'est pour l'art plastique. « Bavardage incessant, beaucoup trop d'absence, élève gay mais triste élève ».
Celle-là, elle est géniale. Mais quel prof peut mettre ça ? C'est d'une cruauté.
C'est une époque aussi, quoi.
C'est une époque, mais moi, je crois que la cruauté n'a pas disparu, hein, qu'elle s'exerce sous d'autres formes, parce qu'aujourd'hui, heureusement, on est un peu plus surveillé. Mais qui faut être pour... On ne se rend pas compte à quel point on peut anéantir une existence avec une parole.
Je vois là, par hasard, Les Roses Fauves de Carole Martinez, qui est un livre qui est sorti après Cœur Cousu de Carole Martinez, qui est moins connu, je pense, mais qui est très intéressant parce qu'il me semble que ça parle d'une tradition andalouse, peut-être, où en fait on mettait dans des cœurs en tissu des secrets et on transmettait de génération en génération.
De les ouvrir.
Interdiction absolue.
Et bien sûr, dans le livre de Carole Martinez, la tentation sera trop grande. Mais déjà, rien que le postulat de départ, moi, ça me met un frisson, cette histoire. Je trouve que c'est du génie. Et Carole Martinez, elle a cette façon de raconter, c'est une sorcière. Elle a cette chose-là, elle a quelque chose de très mystique, tout en étant très immédiate et avec un langage quelque part très simple, sans fioritures, dans ce sens-là, bien sûr.
Et c'est quoi justement vos mentors pour l'écriture ? Est-ce qu'il y a des livres qui sont ici ? Est-ce qu'on en a déjà parlé ou pas ? Des livres qui ont infusé très clairement dans vos deux romans ?
Venez voir. Mon mentor pour l'écriture, c'est pas un auteur. Enfin, si, c'est un auteur. Mais il est là. Vous arrivez à voir.
Alors, lequel ?
Il y a Almodovar.
Ah !
Là, et il y a les œuvres complètes cachées là-haut. Et juste à côté, il y a la Movida.
Et c'est-à-dire que c'est le cinéma qui vous influence le plus pour l'écriture de romans ?
En tout cas, ce mouvement dont il est quand même emblématique, qu'est la Movida. Donc du coup, la Movida, le post-franquisme, après quasiment 40 ans de dictature, si je sais encore compter, la mort de Franco, le pays enfin se libère après avoir passé tant d'années dans la misère pour les descendants ou les républicains et... Dans un régime presque autoritaire pour tous et arrive voilà ce soleil qui vient transpercer la noirceur installée depuis si longtemps et tout le monde c'est une euphorie sans nom et des peintres aux plasticiens en passant par les cinéastes, tout le monde s'empare de la liberté avec une adrénaline, une force, une puissance, une drôlerie et c'est vrai que ce mouvement et cet homme puent cette libération à des kilomètres et ça donne envie, ça, c'est contagieux,
c'est l'énergie,
c'est vivant,
contenu,
oui,
c'est la
lumière.
Tout. C'est...
Alors moi, en l'occurrence, Almodovar,
que vous essayez de mettre ensuite dans vos romans, je veux
voilà,
dire.
Voilà, c'est ses couleurs, les langages. Moi, les femmes d'Almodovar, elles ressemblent étrangement aux miennes, donc j'ai pas trop de difficultés. C'est pas pour rien non plus que j'ai quasiment que des personnages féminins dans mes romans. C'est son influence à lui aussi, je crois. Et il nous apprend à aimer les femmes dans leur entièreté, même quand on n'en peut plus des nôtres.
Je ne l'ai pas dit, mais c'est dommage parce qu'on voit que lui. Il y a une...
Non, on voit le chat aussi, quand même, de
il y a
Monsieur Chat.
Un Nick Cave en grandeur nature, quoi.
Cadeau pour mes 40 ans.
Un carton Nick Cave, effigie de Nick Cave.
Alors, sachez que tout le monde peut faire ça. Si vous voulez, Nicolas, une statue de vous en carton comme celle que j'ai de Nick Cave.
J'en suis pas là.
Alors, j'ai un peu... De, j'en sais rien.
D'Olivier
Ruiz. Quelqu'un
que
vous aimez, de votre... De, je sais pas. Voilà, ou de moi, dans votre salon. Eh ben, c'est facile, voilà. Donc, j'ai un peu râlé quand même parce que j'ai dit vous auriez pu me prendre Nick Cave 10 ans plus tôt, quoi. Mais il me va. Il me va aussi.
Et vous prenez des photos régulièrement avec lui comme s'il était.
Oh, mais je vais lui faire un bisou tous les soirs avant d'aller me coucher. Non, il faut que je le replie. C'est vrai qu'il fait flipper tout le monde. Souvent, les gens sont surpris et croient qu'il y a quelqu'un à l'étage. Eh ben non, c'est pas le vrai Nick Cave.
Non, mais surtout, moi, je suis surpris parce que j'adore Nick Cave, mais c'est pas du tout. Je vous imaginais pas auditrice de Nick Cave parce
auditrice
qu'il y a une mélancolie, une noirceur. Oui, non, certes, mais plus du sud, si je veux prendre les clichés, mais une mélancolie joyeuse, quoi. Tandis que Nick Cave, ça va au fond du désespoir, quoi.
Oui, et en même temps, ça aborde aussi beaucoup la sensualité. Il y a quelque chose... Je vais à la messe quand je vais voir Nick Cave. Il ne faut même pas me parler pendant le concert, parce que je ne réponds pas. C'est comme aller voir Patti Smith ou aller voir Tom Waits. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais là, par contre, on ne rigole plus quand on va voir Nick Cave. Est-ce que vous avez lu le premier roman de Nick Cave ?
Oui, comment il s'appelle ?
La mort de Bunny Monroe.
Voilà, c'est ça.
C'est un road trip.
Ah, il est là en version grand format.
Un papa et son petit garçon. Et ouais, je me suis fait le plaisir de m'acheter
comme original.
Voilà, parce que comme j'avais pas le grand format que j'ai offert mon exemplaire, je me suis fait le plaisir de l'acheter en version originale. C'est l'histoire d'un père et de son fils qui vont se retrouver tous les deux dans un road trip. Je sais pas si j'ai souvent autant pleuré en lisant un livre. L'identification au petit garçon est d'une violence terrible et en même temps, c'est de toute beauté.
Ben voilà, c'est ce que je disais, ça commence quand même hardcore, quoi.
Ah, oui,
je
oui.
suis damné, pensa Bunny Monroe, dans un soudain moment de lucidité réservé à ceux qui vont mourir bientôt. Bienvenue.
Oui, mais c'est comme Raymond Carver. Il y a de la légèreté là-dedans. Mmh. C'est pas du tout plombé, on est d'accord. Il y a quelque chose, c'est, voilà, la messe est dite, quoi. Mais pas avec plus de violence que ça, non.
Vous avez dit
je
le
trouve
mot
Pasolini
magique.
Plus violent que...
Raymond Carver, vous lisez beaucoup de Raymond Carver?
Mais je l'adore. Mais j'en suis folle. Allez, peut-être... Non, je peux... J'allais dire...
Américain.
Ouais, et je... Non, j'allais dire les roses jaunes, mais même pas. Non, j'aime tout. J'aime cette fulgurance, j'aime me faire bousculer, j'aime écarquiller les yeux en pleine lecture...
Votre nouvelle préférée.
J'aime la frustration qui crée chez moi aussi par certaines chutes.
Ouais, parce qu'il n'y a pas toujours une fin. Il ferme la porte en pleine conversation, il s'en va, merci, au revoir.
Ça, c'est le genre de choses, moi, personnellement, que j'ai du mal à supporter, sauf chez lui.
Parce que chez lui, en plus, souvent, on entre au milieu d'une conversation.
C'est vraiment l'œilleton. Mmh. C'est ça que j'adore. C'est qu'on a vraiment l'impression d'être caché derrière une porte et d'observer dans l'œilleton. Et qu'en changeant d'angle, on va encore attraper une nouvelle petite information qu'il ne faut pas qu'on la loupe, parce que sinon on est foutu. Et celle du poulet dans le four, j'ai oublié le nom, qui est très connue, ou une histoire de meurtre, je ne veux pas spoiler, parce qu'elle est tellement géniale. C'est une histoire de meurtre et de poulet dans un four. Mmh.
C'est quoi ce chocolat amer de Laura Esquivel?
Ça fait partie des choses pas évidentes à trouver en librairie. Et... C'est une chose que j'ai lue. Oh, j'étais même pas la femme chocolat quand j'ai découvert ce livre. Vive les profs encore. Vive ma prof d'espagnol. Moi, chez moi, personne ne voulait me parler espagnol. Tout le monde était né espagnol, mais tout le monde refusait d'évoquer l'Espagne ou de parler espagnol. Donc j'arrive au collège. Le bonheur, une prof qui m'apprend l'espagnol. Je rentre chez moi, je parle en espagnol à mes grands-mères qui me répondent en français. J'en ai marre, je lutte, je n'y arrive pas. Mais cette prof, pour elle, c'est le cadeau. Une élève qui n'en a pas juste rien à faire de cette nouvelle langue et qui demande. Et donc, c'est elle qui me conseille ce livre et le film de Carlos Saura, qui est la plus belle des adaptations possibles. Ça s'appelle Les épices de la passion en film et ça s'appelle Como agua para chocolate en espagnol. Et c'est beaucoup mieux en espagnol qu'en français, que l'adaptateur... Il est toujours vivant, me pardonne, le traducteur. Donc, c'est au Mexique. C'est une jeune femme dans la tradition mexicaine de ces années-là. Ça doit être fin du siècle dernier. Dans le Mexique du début du siècle, c'est précis. Ça, comme donc début 1900. Dans 100 ans, il faudra qu'il change la quatrième de couverture parce que ça va. Ouais. Cette jeune femme, Tita, est vouée à s'occuper de sa mère jusqu'à la fin de ses jours parce que le papa est mort et que c'est ainsi que ça se passe là-bas. La cadette va prendre en charge la maman jusqu'à son dernier souffle, donc doit renoncer à se marier, à avoir des enfants, à tout. Elle va tomber folle amoureuse d'un homme qui va tomber fou amoureux d'elle, cette pauvre Tita. Comme elle a interdiction de se marier et que cet homme veut rester près d'elle, il va épouser sa grande sœur en faisant comme si. Et Tita va, par sa cuisine, transmettre toutes les émotions qui la saisissent et qui la rendent malade. Par exemple, elle va se mettre à cuisiner le gâteau de mariage pour le mariage de sa sœur et donc de l'homme qu'elle aime. Elle va pleurer dans la pâte du gâteau. On est vraiment dans l'esprit Movida, complètement fou. Et tous les convives vont se mettre à vomir le gâteau à la fin du repas. Le mariage devient une catastrophe parce que tout le monde est malade de l'amertume des larmes qui auraient coulé à l'intérieur de la pâte. Elle cuisine des cailles aux pétales de rose parce qu'elle veut déclarer sa flamme d'une façon détournée à cet homme dont elle ne peut approcher. Et là, elle provoque un orgasme collectif à table. Même la vieille maman, qui est une saleté, elle aussi se met à jouir de tout son soûl devant ses fils et d'une drôlerie et d'une poésie incroyable. Et voilà, c'est poétique, c'est surréaliste, c'est sensible, c'est amusant, c'est violent, ça fait pleurer, ça fait du bien partout.
Est-ce qu'on peut monter voir les livres sur la coursive ?
Je sais qu'il y a les livres de cuisine sur la coursive.
Ça donne le vertige un peu, hein ?
Oui,
on est sur les vitres, là, en surplomb.
Sensible à ça, ne vient jamais ici, par exemple.
Comment vous avez rangé ces livres ? Donc, vous m'avez dit que c'était en reconstruction.
Il y en a quelques-uns de mon enfance.
Ah oui, c'est la Bibliothèque verte.
Et rose.
Paul
et
Jacques Bonzon.
Je vous ai dit une bêtise, il y en a quelques-uns quand même. Mon oncle Oswald, le meilleur roman de Roald Dahl, mais à mourir de rire, sur une histoire de deal, de sperme, de célébrité.
Qui n'est pas du tout le plus connu, parce que c'est un roman pour adultes.
Ah oui, c'est pas du tout pour enfants.
Ben oui. Roald Dahl, c'est Charlie et la chocolaterie, etc. Quoi.
Oui, mais alors la littérature adulte, Kiss-Kiss aussi, sont des perles, mais particulièrement mon oncle Oswald.
Vous les prenez souvent ici, les livres, ou comment vous choisissez, en fait ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je lise ce truc-là et vous allez le chercher ? Ou est-ce que vous mettez devant la bibliothèque ?
Regarde,
qu'est-ce que je pourrais lire ?
Là, ça, c'est ma palle pour cet été. Donc, il y a plein de choses que j'ai ratées. Je vous montrerai quand on redescendra.
L'écueil et tout ça.
Bah, du coup, je ne savais pas qu'il avait sorti ce livre-là. Je ne connaissais pas du tout.
Et là, il y a plein de beaux livres.
Des poèmes et des textes.
Et notamment ça. Qu'est-ce que c'est ?
Alors ça, c'est tous les manuscrits de Serge Gainsbourg qui sont sortis chez Textuel. C'est une merveille.
C'est des facsimilés, quoi.
Voilà. J'ai eu aussi Nougaro, que j'ai adoré dans cette même collection, et Beco, qui pour moi sont des auteurs incroyables.
Et vous cherchez dans ces vies de musiciens ?
Toutes ces vies sont romanesques. Mais non,
des excuses.
On n'arrive pas à être Nougaro ou Beco. Ce sont que des destins. Nougaro, fils de chanteur et de pianiste d'opéra qui voue leur vie à leur carrière, complètement laissé pour compte, qui passe ses journées à s'ennuyer chez ses grands-parents et qui tout à coup devient lui. Non, toutes ces vies sont romanesques. Celle de Gréco ne l'est pas moins, avec ses allers-retours au Lutetia pour aller retrouver sa sœur et sa mère. Et enfin, un jour, elle retrouve sa mère. Elle meurt de joie et elle se dit enfin, ça va réveiller son instinct maternel et elle va m'aimer. Et elle retrouve cette femme d'une froideur incroyable. Tout est musique. Tout est roman dans la vie de ces gens-là.
Ils sont là, les Artaud Pasalina.
Ah,
il y a
toute la
collecte. C'est quoi votre préféré ?
Alors, petit suicide entre
amis. Ah ouais, il est génial.
Voilà.
C'est un
et
type qui veut se suicider
pas...
et qui s'associe avec un mec pour faire des économies et tout.
Voilà.
Puis 3, puis 4, puis 50, ils sont
et
en bus.
Finalement, ça finit avec un bus, avec un géo.
Pour aller tous se suicider à moindre prix.
Voilà, mais moi, ça me semblait assez logique comme raisonnement. Et il n'y est pas, mais par contre, mon préféré de tous les temps, c'est le Lièvre de Vatanen.
Ah oui, c'est son chef-d'œuvre.
Moi, c'est... mon préféré, en tout cas, je ne sais pas si c'est son chef-d'œuvre, mais...
Donc ça, ce sont les livres que vous allez lire cet été.
Voilà, alors, du coup, Le Grand Tour, plusieurs auteurs.
Et comment vous les choisissez ?
Alors, certains sont des cadeaux.
Ah, Olivier Guèze.
Voilà, et c'est un auteur de chaque pays d'Europe qui écrit une nouvelle... dans Le Grand Tour. Alors, les dédicaces de Cyril Massarotto. Cyril, j'ai grandi avec lui, c'est un ami, un auteur prolifique qui vient d'arriver chez Flammarion. Si on devait lire qu'un livre de lui, ce serait Quelqu'un à qui parler, l'histoire d'un homme qui fête ses 35 ans, qui n'a pas de vie, qui vit juste à côté d'un couple de vieux qui deviennent un peu ses parents de substitution, mais manque de bol, le jour de ses 35 ans, il va les fêter avec une bouteille de champagne. Avec eux, elle s'est pété le col du fémur, il s'en pas là, il est tout seul, il est bourré, il a envie de parler à quelqu'un, il renverse sa coupe de champagne sur son téléphone, il dit mais je connais aucun numéro en fait, j'ai un fixe. Et d'ici, je connais le numéro de la maison où j'ai grandi, jusqu'à l'âge de 10 ans, jusqu'à la mort de ma mère. Et il appelle, et il tombe sur lui, qui a 9 ans. Non mais je te dis ça, rien que de raconter l'histoire, j'en ai un frisson.
Et c'est ça, c'est
magnifique.
Les dédicaces.
Et ça, c'est le dernier de Cyril Massarotto que je n'ai donc pas encore lu.
Le titre du précédent, on a dit ?
Quelqu'un à qui parler.
Quelqu'un à qui parler.
Voilà. Et le nouveau, c'est donc les dédicaces.
Rilke, c'est Lettre à un jeune poète, mais c'est.
Voilà. Et du coup, je savais pas qu'il avait.
En fait, qui a été.
Voilà, je connaissais pas. Gisèle Halimi, ben voilà, il était temps que je le lise, La cause des femmes. Et Adrien Borne, parce que j'avais adoré Mémoire de soi. Voilà, donc son deuxième, La vie qui commence, m'enchantera sûrement tout autant.
Merci beaucoup, Olivia Ruiz.
Mais avec plaisir, c'était très agréable.
Merci de nous avoir accueillis.
Oh, merci.
À bientôt.
Retour en studio et je rappelle, Écoute la pluie tomber, c'est chez Lattès. Et chez vous, Franck Tillier, comment sont rangés les livres ?
Alors, il y a un ordre dans le désordre. C'est-à-dire que moi, c'est plutôt par catégorie. J'ai une partie documentation qui est assez conséquente, hein, qui occupe pas mal de place. J'ai écrit 21 romans. Il y a 21 fois un certain nombre de livres de documentation. J'ai une partie de poche qui est extrêmement importante. Et puis après, les grands formats. J'aime bien agrémenter ma bibliothèque de deux petits objets. J'ai un petit cabinet de curiosité que j'intègre entre les livres pour instaurer une ambiance. Alors, j'ai un petit squelette sous verre, des coupes-papier, divers objets un peu qui ramènent un peu à l'histoire policière. Et puis après, il y a les romans.
Bien sûr, vous ne voulez pas voir un psychologue.
Merci. Et puis, j'ai aussi... il y a les livres que je mets plutôt... de face, en fait. Par exemple, il y a Des souris et des hommes, Frankenstein, Mary Shelley, Cro-Blanc, voilà, des livres. Alors, parfois, je les range et puis je ressors un autre parce que j'aime bien relire aussi des livres qui m'ont marqué. Misery de Stephen King. Mmh.
Denis Lehane.
Oui, Denis Lehane aussi.
Agatha Christie.
Tous ces grands auteurs.
Je vous dis ça parce qu'on en reconnaît aussi c'est quand vous écrivez. Est-ce que vous faites comme certains écrivains pour une scène, vous vous dites « Attends, mais comment il avait fait Denis Lehane ou Agatha Christie ou Conan Doyle ?» Hop, et vous retrouvez le passage. « Ah ouais, c'était comme ça et tout. »
Oui, mais complètement. Complètement. Par exemple, pour le roman que je suis en train d'écrire de l'année prochaine, je relis Frankenstein de Mary Shelley parce que je l'avais lu il y a très longtemps. Mon roman a rapport à la mort, toutes ces interrogations autour de la conscience, de la monstruosité. Et je me dis, il faut que je relise ce roman pour savoir comment le monstre est amené, comment c'est construit tout ça. Donc, la première fois, je l'ai lu en tant que lecteur. Et là, c'est vrai que j'aime le relire en tant qu'auteur qui continue évidemment à s'inspirer aussi des grands auteurs qui l'ont précédé et qui font partie de ces influences que j'aime aussi revendiquer dans mes histoires.
Et on rappelle que Frankenstein, c'est le docteur, pas le monstre.
Mais oui, exactement, les gens le confondent.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, l'heure des libraires. Depuis quelques semaines, j'ai un petit livre sur mon bureau, Éloge des librairies chez Rivage, signé Maël Renoir. Maël Renoir, on s'en souvient pour l'historiographe du royaume. Il était sur la sélection Goncourt il y a 2 ans. Bonjour Maël Renoir.
Bonjour Nicolas Carreau. Vous publiez donc cet éloge des librairies et vous commencez le livre en disant que vous vous rappelez des librairies où vous avez acheté vos livres. C'est-à-dire, vous voyez un livre et immédiatement, crac, ça vous ramène au moment où vous l'avez acheté, dans la librairie où vous l'avez acheté.
Oui, ça m'arrive le plus souvent, c'est pas non plus absolu comme phénomène, mais quand je regarde le livre de ma librairie, effectivement, de ma bibliothèque, pardon, assez souvent, je me dis, tiens, celui-ci, effectivement, il vient de telle librairie. Je me souviens du moment où je l'ai acheté, souvent des livres que j'ai achetés quand j'étais étudiant à Rennes ou au Quartier Latin plus tard.
Mais comment ça se fait ? C'est parce que vous avez un choc quand vous découvrez un livre que vous allez acheter ou c'est juste que vous avez une mémoire particulière pour les livres ?
Alors j'ai peut-être une mémoire un peu particulière pour les livres, effectivement, qui font partie de ma vie de manière assez prégnante. Mais cela dit, pour en avoir parlé avec d'autres personnes ou des amis qui ont lu le livre ou à qui j'en ai parlé, souvent, d'autres personnes me disent qu'elles ont la même expérience, que tiens, oui, effectivement, je me souviens assez souvent des endroits où j'ai acheté mes livres. Alors, ça se vérifie en particulier quand on achète des livres en voyage, quand on part en vacances dans un lieu éloigné où on n'aura été qu'une seule fois dans sa vie et qu'on va dans une librairie et qu'on achète un livre qui peut être lié d'ailleurs à ce lieu où on garde avec le livre qu'on emporte un souvenir de ce voyage et de cette époque de sa vie.
Moi, je me rappelle surtout de où je lisais ce livre quand, euh, quand je retombe dessus quelques années plus tard. Mais, et donc, effectivement, vous parlez de cette spécificité, de votre bibliothèque qui vous rappelle des librairies, et donc des flâneries, et donc des instants de vie. Et c'est une sorte... Alors, c'est un livre qui parle des librairies, on a bien compris, mais c'est aussi une forme de biographie par les librairies.
Oui, absolument. J'appelle ça une sorte de fragment d'autobiographie en flâneur de librairie. Et comme vous le disiez, l'expérience de la lecture d'un livre, en fait, est tissée de tout un réseau d'images, images des lieux où on achète le livre, où on va lire le livre. Parfois, ça peut être... Moi, souvent, j'allais dans le jardin public à côté de la librairie pour lire les premières pages ou dans un café. Donc, on se souvient de la librairie, de la ville où se trouve cette librairie, de l'époque de notre vie où on l'a lu. Et tout ça crée un réseau, une sorte de cercle de mémoire que j'avais envie de déployer dans ce livre comme une matière littéraire à part entière. Et au centre de ces cercles de mémoire, ben, je trouvais que la librairie avait un rôle central. Et donc, c'était une manière de rendre hommage à ces lieux, à ces boutiques.
Et vous avez dit le mot, en fait, c'est surtout une flânerie dans les librairies. C'est-à-dire que vous n'y allez pas forcément que pour des besoins de quand vous étiez étudiant ou professionnel aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes un flâneur des librairies. Vous en faites plusieurs. Vous faites comme un type qui ferait la tournée des bars, sauf que vous faites la tournée des librairies.
Oui, c'est ce que j'appelle les tours de librairie. Souvent, je faisais ça le samedi après-midi. Et ça se terminait par le jardin public où je feuilletais les livres que j'avais achetés dans la journée. Mais c'est d'ailleurs une des différences qu'il y a pour moi entre les librairies et les bibliothèques. Les bibliothèques sont plus exclusivement associées au travail. On va dans une bibliothèque, on s'installe, il y a le silence. On déploie son ordinateur aujourd'hui. Alors que la librairie, dans une époque, dans un moment où on a un travail à faire, alors une dissertation quand on est étudiant, ou aujourd'hui pour moi un livre ou un article, à un moment on sort dans l'après-midi pour se détendre un peu, puis j'allais beaucoup dans les librairies, qui sont des lieux de flânerie, mais c'est aussi une flânerie qui peut relancer le travail en cours, qui peut donner des idées. Et puis par ailleurs, enfin, avant d'écrire des livres, j'ai eu envie d'en écrire. Et les librairies ont joué un rôle important là-dedans. Parce que quand on va, enfin, au moment où on se dit, ah, peut-être qu'un jour, moi aussi, j'aurai un livre parmi tous ceux qui sont là. Donc ça a aussi souvent été une motivation d'aller voir ce qui sortait. Et ça m'a relancé dans des travaux d'écriture que j'avais un peu abandonnés ou qui étaient dans une sorte d'impasse. Et puis, hop, la promenade en librairie peut déclencher des choses nouvelles. Par ailleurs, j'ai aussi souvent trouvé des livres par hasard dans des librairies qui m'ont donné des idées pour des romans ou des livres, notamment pour l'Historiographe du Royaume, qui est un roman qui repose sur beaucoup de documentation et d'éditions. Il m'est arrivé très souvent d'avoir des nouvelles idées grâce à des flâneries en librairie.
Il y a aussi les librairies étrangères qui vous font voyager, qui nous font voyager, les bouquinistes, bien sûr, les librairies de Rennes, de Paris et d'autres. Qu'est-ce qu'on peut dire aux libraires, vous qui êtes maintenant le grand spécialiste de la librairie avec ce magnifique livre?
Bon, alors, je ne suis pas devenu spécialiste de la librairie, puisque ça reste un livre de mémoire, d'anecdotes très, très personnelles. Non, mais il faut leur dire qu'ils sont vraiment extrêmement importants dans la vie littéraire, dans la vie intellectuelle et dans la vie littéraire. Ça, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de raconter. C'est la manière dont les librairies m'ont donné envie de lire, d'écrire. Et c'est quelque chose qui ne peut que se perpétuer.
Merci beaucoup, Maëlle Renoir.
Merci, Nicolas Carreau.
Éloge des librairies. Merci beaucoup, Maëlle Renoir. Et c'est chez Rivage Poche. Sébastien Bordenave nous a rejoint. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Et Franck Tillier, toujours avec nous.
Enchanté. Bonjour, enchanté.
Deux albums, j'imagine, ben oui, comme toujours.
Oui, ce dimanche, deux BD qui, dans des styles différents, parlent à l'enfant que nous fûmes. À l'époque où on s'en fichait pas mal de frimer avec du passé simple, comme je viens de le faire. Voilà. La première BD est un pavé...
J'allais faire un sarcasme, mais vous m'avez devancé.
Je vois mieux avec vous. La première BD est un pavé de plus de 330 pages, mais il y a des BD longues qui paraissent courtes. Naphtaline et de celle celle-là tellement on ne s'ennuie pas. L'autrice vient d'Argentine, elle s'appelle Sol Otero. D'ailleurs, le titre original de la BD, c'est Naftalina. L'histoire parlera au plus grand nombre, puisqu'on a tous eu des grands-parents qui ne sont plus là aujourd'hui. Alors, soit on se souvient avec joie des moments vécus, soit avec nostalgie de ceux qu'on a manqués, soit les deux. C'est le cas de l'héroïne principale, Rocio, 19 ans, une jeune femme de caractère. Non seulement elle vient de l'enterrer, sa grand-mère, mais en plus, elle emménage dans sa maison où forcément il y a beaucoup de souvenirs. La maison lui paraît petite, forcément elle a grandi. Elle se revoit trouver 1000 prétextes pour ne pas visiter sa grand-mère de son vivant, tellement leur rapport était tantôt rugueux, tantôt d'une tendresse infinie. C'est très touchant comme récit, notamment quand elle s'occupe du chat de sa grand-mère qui a plein de puces. Donc il faut passer un produit dans toute la maison, produit qui va faire partir une deuxième fois l'aïeul en changeant l'odeur de la demeure. La BD se plonge avec force dans les recoins sombres de l'histoire de cette famille qui a dû fuir l'Italie du Duce pour l'Argentine. Bref, un roman graphique sublime, dessiné avec beaucoup de personnalité. C'est Naftaline de Sol Otero. D'ailleurs, elle dessine un peu ses personnages comme le ferait Botero, un peu aussi comme Niki de Saint-Phalle. Tout ça pour dire que les dessins ont une personnalité folle.
Bravo. Et un deuxième ?
La deuxième, pareil, le dessin attire tout de suite l'œil. C'est une sorte de chaînon manquant entre Walt Disney et Tim Burton. Elle s'appelle « Ce garçon ». Dessiné par Valentin Maréchal au scénario Mabi. C'est une première BD et c'est bluffant de maîtrise. On est en 68, forcément ça chauffe. Jean-Jean est un petit garçon vif et intrépide. Ouais, il a envie d'en découdre avec les CRS alors que sa mère, elle, gaulliste, encourage le général. Puis elle décide, à cause des événements, d'emmener Jean-Jean et ses sœurs se réfugier à la campagne. La mère, elle a une jambe de bois. Du coup, le trajet en voiture est épique. Elle a une technique de conduite étonnante. Elle coince sa jambe de bois comme ça sur l'accélérateur. Les enfants n'ont connu la voiture que totalement à l'arrêt ou à toute berzingue. Une fois arrivés à la campagne, une intrigue digne du Club des Cinq va se mettre en place. Il y a eu un vol de statuettes vaudou dans la région. Jean-Jean va accueillir l'auteur du larcin, car cette statue haïtienne a été volée par les Occidentaux. Donc le voleur est peut-être pas si méchant. Puis pendant l'enquête, il va découvrir que sa mère, elle a des faux papiers. Mais pourquoi elle a des faux papiers ? Pourquoi
elle n'était pas si gentille.
Et d'où vient cette jambe de bois ? Mystère. Voilà, le personnage d'ailleurs de la mère.
Elle l'a jamais raconté.
Elle l'a jamais dit.
Ah, d'accord.
Et on va le découvrir dans la BD.
On dirait du Franck Tilly.
Et ce personnage
il y a du suspense.
De maman, il est génial parce qu'en fait, elle ressemble un peu à Cruella dans la coupe de cheveux et dans l'attitude. Et quand elle allume le four, elle attend toujours trop longtemps avant de plonger une allumette. Du coup, elle se prend une petite explosion capillaire à chaque fois. Jean-Jean, il dit que quand il croise sa mère avec des cheveux grillés, il sait que le soir on mange du poulet. Ce garçon chez Jungle Ramdam, une maison d'édition que vous connaissez bien.
Oui.
Exactement. Ah bon ? Pourquoi ?
Parce que j'écris de la BD chez Jungle, la Brigade des cauchemars pour les ados.
Voilà. Et vous en lisez beaucoup, j'imagine, de la BD ?
Pas tant que ça, en fait. J'adorerais, parce que je trouve qu'il y a des histoires, des idées formidables dans la BD. Donc ça m'arrive de faire des petites incursions, justement, pour voir le genre d'idées. Moi, j'aime beaucoup Marc-Antoine Mathieu, par exemple, parce que c'est des BD concept, en fait. Il y a une page où, en fait, c'est une non-case, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de case, en fait, c'est découpé dans le papier. Et on a accès. Enfin, voilà, j'aime bien c'est pareil que pour mes romans, d'avoir accès à l'histoire et aussi à un concept derrière.
Et des astuces et tout.
Exactement.
Donc c'était Naftaline, publié chez Ça et Là de Sol Otero. Et donc, Ce garçon de Mabi et Valentin Maréchal, c'est chez Jungle Ramdam.
Et ma citation ?
Eh bien, elle est là. On se quitte sur une citation BD. Elle vient d'un manga qui s'appelle Gintama. Alors, sachez que si vous voulez tous les lire, il y a 73 tomes quand même. Mmh. Le héros, il dit à un moment donné : si tu meurs, ne viens pas pleurer après. J'aime bien cette phrase.
Ouais, pas mal.
Europe 1.
Franck Tillier, Labyrinthe, c'est chez Fleuve Noir, c'est génial et on s'y perd avec délectation. Merci beaucoup Franck Tillier.
Merci, c'était un plaisir.
À l'année prochaine.
Oui, avec plaisir.
C'était la dernière page de cette émission. Merci aussi à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, à Pierre-Yves Falson et à Grégory Delpech pour la programmation musicale. Justement, rendez-vous avec Didier Barbelivien maintenant pour Dis-moi ce que tu chantes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.